aperto a tutti quanti.
J'ai un souvenir de... Je devais avoir 14 ans. J'ai entendu un opéra de Mozart, ça doit être Les Noces de Figaro, à mon avis. Je ne suis pas certain. En tout cas, un opéra de Mozart, dans une maison que mon père avait arrangée à côté du four solaire d'Odeillo, dans les Pyrénées-Orientales, parce qu'il dirigeait le four solaire. Donc, on était logés par le CNRS. Et dans cette maison, en ayant mis la radio, j'ai entendu du coup un opéra. Et ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc, du coup, je l'ai gardé en mémoire, et quand après j'ai fait mes études, j'ai toujours acheté des coffrets d'opéra que je n'écoutais pas, parce que je n'écoutais que Pink Floyd, Santana et Genesis, comme tout le monde. Et en revanche, j'étais fasciné par la qualité des coffrets, les couvertures, les tableaux, les livrets, tout ça, je trouvais ça magnifique. Alors je n'écoutais pas les disques, mais je les collectionnais. Alors tout mon argent passait dans des coffrets d'opéra, et je me disais qu'un jour, peut-être, j'aimerais ça. Donc je pense que cette première écoute a dû être importante dans ma carrière, en fait. C'était autour de 14 ans, parce que ni mes parents écoutaient beaucoup de musique, mais plutôt instrumentale, mais pas tellement de musique vocale. Je crois que ça a été très très surprenant pour moi d'entendre tout d'un coup un traitement instrumental par les voix.
Donc en fait, chanteur, c'est pas un rêve d'enfant ni une vocation.
Non, c'est pur hasard de mes rencontres. J'ai pas eu une formation musicale poussée comme si je sortais d'un conservatoire dans lequel je serais entré à 6 ans. J'ai dû rentrer au conservatoire à 20 ans. Ensuite, puisque pour suivre l'enseignement de Jacqueline Bonnardeau, j'ai dû m'inscrire au conservatoire d'Orléans. Donc là, j'ai fait mes classes à la dure, quoi. Je me suis retrouvé assis à côté de jeunes enfants, ce qui est pas facile quand on a 20 ans. C'est une bonne leçon d'humilité, surtout quand on commence le solfège. Mais comme j'ai eu la chance après d'entrer de passer le concours de l'École nationale supérieure d'art lyrique, qui était à l'époque à l'Opéra Comique. Là, après, j'ai pu avoir un enseignement plus poussé, grâce à des professeurs privés, tels que Marie-Claude Abarretaz, pour tout ce qui était le solfège, Michel Sénéchal pour ce qui était le chant, et puis tout ce dont on a besoin, l'italien, et Paolo Zedda, l'allemand, et puis tous les cours qu'on recevait dans le cursus de l'École nationale de l'Opéra. Ça, c'était très intéressant. Du coup, j'ai dû rattraper toutes les années que j'avais passées à faire autre chose.
Alors justement, vous n'avez pas fait que des études musicales, vous avez fait plein d'autres choses.
J'ai fait des études, comme tout le monde, j'ai fait une licence de lettres à la Sorbonne, donc lettres modernes. Mais en même temps, moi j'ai une formation plutôt graphique, hein, puisque ma mère est archéologue au CNRS, donc je devais l'aider quand j'étais petit pour faire des relevés, des choses comme ça. Donc elle nous avait inscrit à une école de peinture. Je me souviens, je faisais encore la sieste. C'était chez Madame Claude Estadas de Ripouille, à Toulouse. Nous habitions Toulouse à l'époque, hein, faut comprendre. Et Madame Claude Estadas de Ripouille avait une école qui était sur les quais de Tunis. Et elle se disait, votre enfant écrit comme un, et on voyait un chat qui faisait des taches partout, envoyez-les à l'école de peinture de Madame Claude Estadas de Ripouille. Si bien que j'ai appris le dessin, je devais avoir 3-4 ans. On y allait le jeudi après-midi à l'époque, et j'ai appris à dessiner jusqu'à 14-15 ans, quoi. Donc j'ai une formation graphique assez poussée.
Et pourquoi vous n'êtes pas devenu artiste ?
Artiste peintre, vous voulez dire ? Ben, j'ai été artiste peintre pendant un moment, puis j'ai enseigné le dessin après l'éducation nationale, puisque quand j'ai fait l'école des arts décoratifs, j'ai été professeur pendant mon service militaire au collège militaire de Saint-Cyr à l'école, professeur de dessin donc. Je me vouais plutôt à l'enseignement et à la pratique évidemment de la peinture Mais le chant est venu tout bouleverser dans ma vie.
Che ne dite mio bel sofar pulito?
Signore, è mio marito!
Colui? E vi pare che un onesto uomo, un nobile cavalier, quel io mi vanto possa soffrire, che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato?
Ma, signore, io gli diedi parole di sposarlo!
Tal parole non vale un zero! Voi non siete fatta per essere paesana.
Quelle place a Jean-Claude Malgoire dans votre carrière?
Jean-Claude, je l'ai rencontré au début de ma carrière, hein, puisque j'ai fait avec lui le Hippolyte et Aricide Rameau, qui avait été monté au Festival d'Aix et qui avait été repris par le théâtre Reggio Emilia, dans l'Émilie en Italie. Avec l'orchestre local, donc l'orchestre du théâtre des Italiens, qui ont joué donc dans un diapason moderne. Hein. Et Jean-Claude avait été pris pour diriger cet orchestre. J'avais été engagé par le metteur en scène et le directeur du théâtre de Reggio Emilia, qui était le metteur en scène Pierluigi Pizzi, qui était très connu comme metteur en scène, qui m'avait déjà engagé par ailleurs dans d'autres ouvrages. Et lui, là, il m'a engagé pour chanter le rôle de Thésée. Donc, nous sommes rencontrés en Italie, nous avons passé un mois et demi ensemble. Et j'ai sympathisé avec lui. D'abord, nous étions les deux ou trois Français dans l'œuvre, dans l'ouvrage, donc... on a eu un contact assez facile. Et puis, je suis tombé sous le charme de l'homme, de son intelligence, de sa curiosité, de son originalité. Si bien que, on est devenu amis. Et par la suite, Jean-Claude m'a régulièrement demandé de pouvoir chanter des ouvrages, pour avoir très souvent des prises de rôle pour moi, à l'atelier lyrique de Tourcoing ou dans les théâtres dans lesquels il était engagé. Très souvent avec la grande écurie, son orchestre, ou parfois avec des orchestres comme le jour où nous nous sommes rencontrés. Des orchestres dont il était le chef invité. Mais depuis, on a toujours fait énormément de choses ensemble, en moyenne, au moins une ou deux productions par an, par goût, parce que d'abord, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour lui comme chef d'orchestre, comme homme, donc sa curiosité, puis sa façon de toujours aller au texte avant même d'aborder la musique, et puis sa façon surtout de tenir un discours qui n'était pas le discours digne de normes, disons, sur une œuvre. Donc on peut la critiquer, on peut dire les instruments n'étaient pas ce diapason-là à l'époque, ne ceci, de cela. Enfin, là, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que ça veut dire, mais globalement, il avait toujours une approche qui était d'ordre, je dirais, livresque, historique, scientifique. Qui doit laisser peu de place à l'approximation. Disons, tous les choix esthétiques étaient étayés de façon très, très rigoureuse. Et ça m'a beaucoup plu. De par formation, si vous voulez, j'avais fait une classe préparatoire, donc je savais ce que ça voulait dire de l'étude d'un texte, de respecter, de ne pas être en contradiction. Bon, voilà, c'était des choses auxquelles j'étais sensible. Et Jean-Claude avait cette approche. Et puis en plus, comme c'est un être jovial, c'était pour moi l'occasion d'allier le plaisir et le travail.
Vous vous souvenez de vos débuts à Tourcoing ?
Oui, je me souviens de mes débuts, oui. C'était dans un opéra de... Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que c'était dans Zaïde de Mozart. Zaïde de Mozart avec Gilles Ragon, Daniel Salas. Je me souviens plus des femmes qui chantaient. En tout cas, c'est un opéra de Mozart non fini qui avait été monté par Daniel Augier, qui est un costumier de grand talent, très bon décorateur, qui faisait aussi la mise en scène. Il avait fait une très très belle mise en scène d'un ouvrage qui n'était pas fini, donc à l'époque c'était compliqué, on se demandait comment finir. Il avait pris un acteur qui avait un peu réécrit le texte, alors c'était une œuvre qu'il laissait sur sa fin, parce que justement elle était inachevée. En revanche, musicalement, c'était très, très intéressant. On avait répété dans des lieux qui aujourd'hui sont installés, mais il y avait la piscine, par exemple, à Roubaix, qui aujourd'hui est un musée. Mais à l'époque, c'était vraiment une piscine avec un lieu complètement désaffecté. Donc, on répétait dans un lieu à peine chauffé, en dehors, dans un paysage industriel, un peu à l'abandon, avec des brocanteurs. On se demandait si ce qu'ils vendaient avait été volé, était de passage. On voyait des cars de la gendarmerie qui passait en gyrophares de temps en temps, quand on sortait tard le soir. Enfin, c'était un quartier qui me plaisait beaucoup. Ça vivait, ça avait un décor à la Auster, un peu, et puis John le Carré, enfin, c'était rigolo, quoi. Ensuite, on allait dans un hôtel qui était le Film Hotel ou l'Hôtel Ibis, ou dans l'école, il se passait des choses incroyables. Je me souviens d'une nuit où j'avais la générale le lendemain, et puis il y avait un vacarme assourdissant au-dessus de ma chambre. À la 1h du matin, j'avais appelé la réception, il n'y en avait pas. Alors je suis monté, et puis je suis tombé sur des lutteurs de gréco-romains qui étaient nus et qui avaient complètement saccagé la chambre. Alors évidemment, j'étais parti en courant en m'enfermant dans ma chambre de peur des représailles, mais je m'étais pas trop plaint finalement. J'ai passé la nuit à mettre du papier toilette dans mes oreilles pour pas être dérangé. Puis j'ai chanté le lendemain. Finalement, on chante très bien quand on a passé une nuit blanche. Mais il y arrivait des choses vraiment incroyables, quoi. C'était le Nord. Je sais pas. C'était une autre quelque part. C'est pas vieux, hein. Ça remonte à, je sais pas, 18 ans, quoi. Peut-être 20 même. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu les choses bouger ici, puisque je venais régulièrement. J'ai vu l'île bouger. J'ai vu la région du Nord bouger en bien, en mal aussi parfois. Mais sinon, c'est toujours assez émouvant de revenir sur les trains, comme ça, sur le passé. Surtout parce que, après Zaïd, ça a été un enchevêtrement d'autres œuvres. Et il y avait toujours un lien conducteur entre toutes ces œuvres. C'est pas uniquement le désir de son directeur, Jean-Claude. C'est aussi, on sentait que les gens qui venaient vous écouter avaient déjà une certaine culture. C'est comme si le théâtre avait formé son propre public, mais l'avait éduqué, quoi, qui partait de rien, et tout d'un coup, ils se sont intéressés. Vous avez des machinistes qui vous parlaient de « Oh, mais dans Gluck, il n'y a pas du tout ce même traitement. » Puis il y avait un personnage que j'aimais beaucoup, c'était le frère d'un technicien de plateau qui s'appelle Nénès, qui était un personnage que j'ai été très triste de sa disparition. Mais visiblement, il travaillait dans ce théâtre municipal, et puis c'était avec une personnalité très, très, très forte. Je regrette un peu sa disparition. On m'a pas dit quand il est parti, je crois qu'il est parti des circonstances un peu dures, mais il y avait des grandes personnalités, puis personne ne jouait des stars là-dedans, quoi. Et ça, c'était chouette.
Oui, dans le Nord, c'est un petit peu l'aventure. Alors, quand vous êtes sur scène, à quoi pense un chanteur?
À quoi pense-t-il? D'abord, il pense à être ensemble, c'est-à-dire que il pense à pas décaler, c'est-à-dire de pas aller trop vite et pas aller trop lentement. Il pense à être avec l'orchestre, c'est déjà pas mal. Ensuite, il pense à sa mise en scène, il pense à sa voix, il pense à, comment dire, à être le personnage, et tout ça en même temps. Donc c'est une lecture verticale, si vous voulez. Il pense d'abord à être fidèle aux répétitions qui ont eu lieu dans le mois qui a précédé. Il pense à être en contact permanent avec le chef, il pense à être en contact auditif, et c'est déjà trop tard, avec la fosse. Et il pense à ses partenaires, à savoir s'il y en a en difficulté, éventuellement l'aider, si toujours aller plus loin dans le rôle et à trouver des choses qu'on n'aurait pas éventuellement pas soupçonnées avant. Et puis il pense à se faire plaisir aussi, c'est-à-dire à entrer en contact avec une salle et entrer en vibration et puis sentir si les vibrations reviennent et puis dialoguer.
Sur quels critères vous choisissez vos rôles?
Eh bien, il faut qu'il soit un commun en dessous de mes possibilités. C'est-à-dire que donc il faut que d'abord il soit pour ma voix, ensuite il faut que ce soit pas trop tôt pour moi, c'est-à-dire que je sois pas en danger vocal. Ce sont mes seuls critères. Parce que je ne chanterai qu'avec ceux-là, je ne chanterai que sous la direction de ceux-ci, etc., etc. Non, je suis ouvert à. Je ne me renseigne jamais sur la distribution ni sur tout ce qui est autour de la production, si vous voulez, au départ. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est savoir ce que moi je pense de cette œuvre, est-ce que j'ai envie de la chanter, est-ce que la musique me plaît. Bon. Ensuite, est-ce que cette musique est adaptée à mon organe? Est-ce que ma voix va se développer, se bonifier ou se mettre en danger dans l'ouvrage? Ensuite, est-ce que le temps de répétition est conséquent, c'est-à-dire qu'on est à l'abri des approximations, on a 3 semaines de répétition, parfait. Le metteur en scène arrive, il connaît sa partition, il a travaillé, les décors sont faits. Bon, le chef a travaillé aussi, les autres chanteurs, on voit qu'ils connaissent le rôle et que visiblement c'est vraiment des trucs pour eux. Donc tout est relié pour un succès, pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Mais a priori, je vais pas aussi loin dans les mises en garde que je prends sur une production. C'est d'abord la partition. Avant tout, ce que moi et ma partition nous avons à nous dire, je veux dire, c'est comment ça me va vocalement, quoi. Si l'histoire me plaît, c'est tout ça, et puis alors là, du coup, je dis oui. Alors évidemment, certains me diront, oui, mais alors attention, il y a le cachet, il y a les gens avec qui tu chantes, il y a le chef, tout ça. Alors je pense que d'abord, il y a l'œuvre. Et après, les gens qui sont autour et le lieu où on le fait. Et puis après, l'argent, quoi, truc, mais enfin, bon, je peux pas dire que je fasse ce métier uniquement pour l'argent que je vais en tirer. C'est surtout pour travailler mon organe, quoi. Je veux dire, évidemment, je suis payé, on n'est jamais assez payé par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux efforts que ça demande. Mais je veux dire, c'est pas le propos. Je veux dire, quand on fait pas la musique pour faire fortune, c'est une autre chose.
Alors, le chant, c'est une activité très physique. Comment vous entretenez votre voix?
En ne fumant pas! Non, je rigole. J'entretiens ma voix en faisant un peu de sport, en ne buvant pas, en fumant pas, en ayant une hygiène de vie correcte, en mangeant des légumes et des fruits tous les jours, en me couchant pas à 6h du matin, surtout si je chante le lendemain, en faisant comme tout le monde, quoi. Rien de plus. Il n'y a pas une hygiène de vie, c'est tout normal, sans excès, quoi. Mais puis surtout, en faisant autre chose que penser à sa voix toute la journée, quoi. Donc, en regardant des DVD, en achetant des livres, en regardant la télévision si jamais il y a quelque chose, et puis en sortant, en voyant des amis, en rigolant.
Vous chantez tous les jours?
Je chante tous les jours parce que bon, je suis professionnel et que de toute façon, je suis engagé à chanter tous les jours. Mais de là à chanter tous les jours, ça ne veut pas dire grand-chose, chanter tous les jours. Parce qu'il paraît qu'on chante même quand on dort, vous savez. C'est pour ça que quand certains ont des problèmes vocaux, j'ai lu ça sur des gens qui avaient eu des nodules, donc des boutons sur les voix par effort vocal trop poussé, on leur empêchait d'écouter de la musique. Parce qu'écouter de la musique, quand vous écoutez la musique, vous la chantez aussi. C'est le silence, c'est le silence absolu. Parce qu'on est toujours en production, même quand on chante pas, on est toujours en train de faire travailler ses cordes vocales. On l'a vu, hein, on a mis des instruments, puis on a vu si ça vibrait quand les gens dormaient ou étaient au repos. Ben, ça vibrait quand même. Ça veut dire que on est toujours en train de travailler, en fait. De se repasser un rôle, de se souvenir du texte, puis de re-regarder la musique. Ah tiens, c'est un piano, zut, j'étais persuadé que c'était un mezzo forte, vous voyez, bêtise de ce genre. Ah tiens, là il y a marqué sotto voce, hein, non, je pensais que c'était fortissimo, c'est pas la même chose, mais clairement. Bon, eh bien, on retourne la partition, et puis finalement on se rend compte qu'on la connaît jamais, quoi. Il y a toujours une information en plus qui vient, qu'on a oublié, un répétiteur vient vous le dire, le chef vient vous dire à tel endroit c'est comme ça, et puis vous l'avez pu remarquer, ou ça vous était sorti de l'esprit. Donc on est en permanence en train de régler un instrument, quoi. En train de se régler par rapport à une détérioration cellulaire qui concerne la mémoire, qui concerne tout, et il n'y a rien à faire, je veux dire. Mais dès 20 ans, c'est comme ça. Alors plus on vieillit, plus on est armé, ça c'est sûr. C'est-à-dire que là où on est le plus en danger, c'est quand on commence ce métier. Parce qu'après, on sait ce que tous les écarts risquent d'apporter comme problème. Alors, instinctivement, on se protège beaucoup mieux. Mais au départ, tous les excès, tout le monde les a fait, quoi. Et on sait combien ça coûte, quoi.
Quelles sont les principales qualités du chanteur?
Écoutez, est-ce que moi, je suis bien placé pour en parler? Je ne sais pas. Il faut demander à ceux qui ne le sont pas, justement. Mais pour en parler de mon point de vue, la première, c'est d'être une éponge. C'est-à-dire de ne pas arriver avec des idées préconçues en disant « je sais quelque chose, je sais chanter, donc j'ai un savoir-faire dont tout le monde a profité ». Moi, je pense qu'il faut être une vraie éponge. C'est-à-dire, tout ce qui nous entoure était sujet de perfectionnement et d'admiration. Si on a un peu cette attitude... A priori, on est suffisamment éponge pour tout absorber et du coup en tirer profit. Dans l'idéal, disons. Dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est que la voix exprime tout. Qu'on puisse fermer les yeux et puis savoir exactement non seulement ce que dit le chanteur, mais en plus ce qu'il veut exprimer. Qu'il n'y ait aucune trace d'ambiguïté, ou s'il y en a une, qu'elle soit voulue. En tout cas, tout doit être assimilé sans idée préconçue pour après le faire sien. Alors ça, c'est là, je parle d'une période d'apprentissage, plus ou moins. Mais il y a aussi dans le sur-scène des impondérables, des choses comme ça qui font que vous êtes meilleur parce que vous prenez corps à une vision qui est supérieure à la vôtre. Il faut bien penser une chose aussi, ça c'est quand même une leçon d'humilité, c'est que un chanteur arrive sur une production en connaissant son rôle et puis pendant un mois travaille sur une œuvre, en moyenne, hein, je vous parle du métier tel qu'il est aujourd'hui, parfois quand on travaille, moi là je reviens de Glyndebourne, c'était 2 mois de répétition, je veux dire, il y a des endroits où on prend vraiment le temps d'aller dans le détail des choses, très souvent, pas tellement pour les artistes, mais pour le metteur en scène qui connaît pas l'œuvre, donc c'est pour lui l'occasion de se familiariser avec. Mais... C'est l'occasion de vraiment se plonger dans une œuvre et de faire corps avec un travail collectif. Alors évidemment, quand on chante un rôle, on est individuel, quoi. Je veux dire, on exprime un personnage, une situation, etc., etc., etc. Mais on rentre dans une vision qui est supérieure à la nôtre, parce que le metteur en scène, il a travaillé depuis 2 ans au moins sur la production. Et en amont, il a au moins fait 2 ans de travail. Et ça, c'est au minimum. Ce qui veut dire que lui, il a réfléchi à l'œuvre par-dessus, par-dessous, par tous les côtés. Il se fait sa vision, d'accord? Mais l'œuvre, il la connaît mieux que vous. Parce que vous connaissez votre rôle, mais vous ne savez pas tous les petits détails des rôles d'à côté. Et on connaît vraiment bien une œuvre quand on est capable de chanter tous les rôles de la partition. Et ça m'arrive pour quelques œuvres que j'ai chantées plus de 100 fois. Parce que maintenant, même les autres personnages me sont devenus familiers. Mais là, je commence à comprendre que là, on comprend l'œuvre. Et très souvent, là, c'est encore moins bien que le metteur en scène qui lui a travaillé 2 ans dessus. Donc, il faut une certaine humilité. Il ne faut pas arriver en disant, voilà, moi, je connais mon rôle, j'ai chanté celui-là 100 fois, donc je connais l'œuvre, voilà, venez pas m'embêter. Bah, c'est pas vrai. Parce que la vision de quelqu'un qui vous met dans une case est plus importante que vous qui pensez posséder tout l'alentour. Vous voyez ? Je pense. Hein.
La vie d'un chanteur lyrique à la carrière internationale, c'est exaltant ?
Ah oui, c'est passionnant, oui. C'est passionnant parce qu'on voyage, ça il faut voyager évidemment. On n'est pas souvent chez soi, d'accord, mais on va dans des endroits où on n'irait jamais sinon. Ou alors on irait comme touriste, on n'aurait même pas l'impression de voir la chose vraiment telle qu'elle est. Parce que là on y va en travaillant. Donc si vous voulez vous retrouver fin fond de l'Italie, au fin fond de la Chine, au fin fond de l'Autriche, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas les mêmes paysages. Mais à chaque fois vous avez l'impression d'être vraiment du cru. Si jamais vous faites l'effort de parler la langue, de vous intéresser à ce qu'il y a autour, de lire un peu le journal, enfin bref. Vous intéressez à l'endroit où vous êtes, vous avez le temps, puisque vous êtes au moins pour 2 mois. Donc là, c'est super, quoi. Ça veut dire, un, d'abord les voyages, quoi, on tourne, et ensuite, les gens qu'on rencontre. C'est pas toujours des gens qui viennent de votre univers. Vous rencontrez des Géorgiens, vous rencontrez des Russes, vous rencontrez des Chinois, des gens qui parlent mieux l'anglais que vous, qui parlent mieux toutes les langues que vous, finalement. Je veux dire, c'est étonnant. Et en même temps, qui pensent pas du tout comme vous, quoi. Alors, vous chantez à côté d'eux, et la musique, c'est un langage que tout le monde comprend, on parle la même langue, quelque part, on a l'impression, et puis en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout, ils font des erreurs que vous ne faites pas, et réciproquement. Alors, c'est très curieux, je veux dire, c'est passionnant, c'est passionnant. Si on voyage, c'est passionnant. Si c'est juste pour se retrouver dans sa chambre d'hôtel en demandant le plus gros cachet, alors là, je pense qu'il faut vraiment faire autre chose, hein, ça c'est clair. Parce que là, vraiment, changer de chambre d'hôtel, si vous descendez au Holiday Inn, c'est le même, c'est comme aller à McDonald's partout à travers le monde, ce sera la même chambre. Ce sera un lit dur avec un tissu à fleurs pourries et une grande baie vitrée sur une magnifique vue, c'est sûr, mais de toute façon, vous mangerez pareil, vous aurez le restaurant italien au rez-de-chaussée. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne faites pas l'effort de vous dire, tiens, je vais en profiter pour faire autre chose que de faire exactement ce que je fais chez moi, alors qu'on vous a engagé pour. Hein. Si on vous fait venir, c'est quand même pour que vous présentiez des vibrations et puis une image qui soit un peu celle du lieu où les gens sont venus pour vous y retrouver. Vous avez intérêt à faire le travail inverse. Voilà, c'est ce que je trouve qui est intéressant dans la carrière.
Oui, la rencontre avec les gens.
La rencontre avec les gens, les lieux, les théâtres, la façon de voir le métier, puis le spectacle vivant, quoi, qui est finalement en danger en ce moment, parce qu'évidemment... rien ne pousse à faire du spectacle vivant, ça coûte cher, c'est éphémère, alors que on veut maîtriser une image qu'on fait chez soi tranquillement dans un studio, bientôt on verra l'opéra que monter numériquement, quoi. On verra des images de synthèse, des images numériques, et puis c'est tout, et on se dira c'est tellement plus propre, c'est tellement, évidemment, ça se défend. Maintenant, je pense que le spectacle vivant, c'est le contact de chair à chair, c'est essentiel. Bon, et puis en plus, vous savez, les plus belles productions que j'ai faites, elles ont été faites avec des bouts de ficelle. Elles n'ont pas été faites dans des méga tough trucs avec un budget qui se comptait à 1 million d'euros, quoi.
Les applaudissements, c'est une drogue?
Je sais pas. Je pense peut-être quand même. Parce que finalement, il y a des métiers qui sont tout aussi valorisants. Et à la fin, bon, quelqu'un, il sort de la table d'opération. À un moment, il se réveille, il applaudit pas celui qui lui a sauvé la vie, quoi. C'est clair. Bon. En revanche, c'est pas tellement une gratification que le... Un dernier, c'est un au revoir de quelqu'un avec qui vous êtes rentré en contact, si vous voulez. Alors bon, il y a plusieurs écoles, mais globalement, tous ceux qui veulent les supprimer sont des gens qui veulent être les premiers bénéficiaires. Ça, c'est une loi absolue dans le métier. À chaque fois que j'ai vu les gens qui voulaient supprimer les applaudissements, c'est parce qu'ils voulaient être les seuls à les prendre. Ensuite, il y a des excès, quoi. Si vous retournez en Italie, effectivement, vous voyez les gens qui arrivent, qui vont au casse-tête, et puis après, ceux qui veulent saluer le dernier, qui prennent tout, qui regardent les autres comme si c'était des tas d'excréments. Enfin, je veux dire, il y a tout là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus important pour le public que ça ne l'est pour l'artiste. Je crois que c'est quelque part, je sais pas, il faudrait en parler avec d'une façon théorique avec des gens qui sont vraiment assis dans la salle et qui vont souvent au spectacle, mais Je pense que c'est eux qui ont le dernier mot, c'est pas tellement l'artiste. Je pense que c'est une façon pour eux de dire, bon, c'est fini, j'ai bien apprécié, j'ai apprécié un peu, pas du tout, c'était un grand moment, je suis rentré en contact avec vous, j'ai appris quelque chose, je me suis ennuyé, je me suis endormi, enfin bref. Autant de choses qui font que j'ai passé une bonne soirée ou vraiment j'aurais mieux fait rester chez moi.
C'est une façon de dialoguer avec vous.
Oui, je pense, oui. C'est toujours un moment un peu excitant pour nous aussi quand même, parce que, a priori, les gens sont gentils, quoi, ils applaudissent. Mais il y a toutes les nuances dans l'applaudissement. Il y a l'applaudissement gentil, puis il y a l'exalté, il y a le méprisant, il y a celui du dimanche après-midi où l'on dort, celui au contraire où on a beaucoup écouté. Il y a tous les cas de figure possibles et imaginables. Il y a tous les publics dits possibles et imaginables aussi, parce que c'est la magie du spectacle vivant.
Il y a aussi celui qui siffle.
Alors voilà, il y a aussi celui qui siffle. C'est assez curieux, mais les gens sont bien élevés, ils sont assez respectueux du travail des artistes. C'est assez rare dans une production d'avoir un artiste qui est défaillant au point de se faire siffler. Ça m'est jamais arrivé en 20 ans de carrière, 25 même. J'ai pas vu vraiment d'artiste se faire siffler. En revanche, j'ai vu des responsables d'image, donc des metteurs en scène, être parfois vraiment, vraiment chamboulés parce que les gens se retrouvaient pas dans l'image qu'on leur proposait. Très souvent, les gens ont une connaissance très précise des images qu'ils veulent voir. Aujourd'hui, c'est difficile, hein, parce qu'on est submergé d'images, donc on est très cultivé, picturalement. Et puis j'ai vu des chefs aussi se faire un peu chahuter parce que soi-disant, ou parfois à raison, les choses n'étaient pas ensemble ou n'avaient pas le brio, ou parfois parce que les gens ils ont besoin de dire « Oh, finalement, on va pas vous laisser partir avec un satisfecit comme ça », comme les critiques d'opéra aussi. Très souvent, ils disent « Oh, moi j'ai dit trop bien là, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui en prenne un peu dans la tête ». Parfois c'est vrai, parfois c'est un peu excessif, parfois c'est injuste, mais disons que... C'est assez rare que le public soit vraiment hostile à un spectacle. Ils sont hostiles quand ils supportent pas le contresens. Voilà. Or, le contresens, quand l'œuvre est vraiment géniale, on peut la tirer dans tous les sens. Je me rends compte, c'est très difficile d'être vraiment en contresens avec une œuvre. Et très facile à la fois, hein. Mais bon, très difficile dans la mesure où il y a des œuvres qui sont tellement géniales, tellement riches de sens qu'on peut les tirer dans tous les sens. Et puis, certaines qui sont plus fragiles, plus difficiles à monter, donc. Et celles-là, en revanche, là, les metteurs en scène se mettent en danger parce qu'ils prennent en considération des intérêts économiques auxquels ils devraient être complètement étrangers. À savoir, qu'est-ce qu'il va payer? Si je fais ça, ça a déjà été monté, je vais faire autre chose, je vais présenter une autre image, et puis finalement, j'aurai plus de succès. Moi, je tirerai plus la couverture à moi. Mais là, l'œuvre, elle n'aime pas qu'on l'habille d'un costume qui ne lui va pas. Vous voyez? Alors, les gens dans la salle, ils sifflent. Et c'est le premier à prendre, c'est lui. Celui qui est responsable de l'image.
Et Mozart, il vous dit quoi?
Ben Mozart, il me dit ce qu'il dit à tout le monde. C'est-à-dire qu'il vous parle de vous quand tout va bien et de vous quand tout va mal. Il est d'une humanité qui frise l'indécence quelque part, parce qu'il arrive à mettre en musique ce que vous dites en parole. Il arrive à vous donner une phrase qui dans sa simplicité vous amène dans l'abysse de la joie ou dans les abysses de la douleur ou de la nostalgie, il y a tout, quoi. C'est extraordinaire pour un homme qui a vécu aussi peu d'avoir laissé quelque chose aussi extraordinaire, une œuvre aussi, avec toutes les faiblesses qu'il y a aussi, hein, parce que vous savez, rester une demi-heure en do majeur, au bout d'un moment, je veux dire, on n'a pas le même rapport au temps. Hein. Cosy, je le connais de long en large, il y a des pages de Cosy qui me disent plus rien, soit par usure, soit parce que je trouve qu'elles sont faibles. Mais tout d'un coup, au détour d'une page, vous avez quelque chose qui vous court-circuite la moelle épinière et qui vous laisse dans le doute pour deux jours. C'est un compositeur, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, tout le monde a tout dit sur lui, mais... Il vous interpelle, quoi. On peut écouter du Mozart en faisant autre chose. Je sais pas, vous êtes dans votre cuisine, vous préparez un pot-au-feu, et puis derrière, vous avez la petite musique de nuit. Bon, ça vous berce votre journée, d'accord? Mais tout d'un coup, ça s'arrête et puis vous vous demandez pourquoi ça s'est arrêté. Vous retournez l'allumer et puis tout d'un coup, vous tombez sur une page que vous n'attendiez pas. Et il vous surprend, quoi. Et ça, on croit toujours le connaître et quelque part, il y a toujours un détour, une phrase, quelque chose qui vous parle à vous. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une messe, hein, qu'on y va et puis il y a une phrase qui vous est adressée. Non, c'est un immense supermarché dans lequel il y a toujours quelque chose qui a été écrit pour vous, quoi. Alors, c'est un rapport hallucinant parce qu'on est aussi loin de lui que de beaucoup de choses, je veux dire, de son époque, de son milieu. Je veux dire, c'est un Autrichien, quoi. Il est né à Salzbourg. Je veux dire, qu'est-ce que c'est Salzbourg à l'époque, quoi. Je veux dire, c'est quoi, c'est un Allemand, c'est un Italien, c'est un... Et pourtant, il est plus français que nous, quoi. Vous voyez, vous l'écoutez, vous reconnaissez dans tous les personnages qu'il décrit, dans le personnage lui-même, quelqu'un que vous avez connu dans votre vie. Alors, cette espèce de facilité à entrer dans la peau de tout le monde, de pouvoir dire des choses que très profondes dans la peau d'un jardinier, dans la peau d'un séducteur, à la peau d'une femme abandonnée, d'une femme cruelle. Tout est juste, quoi. Tout est juste et bon, c'est vrai dans d'autres compositeurs aussi, c'est vrai, mais je trouve qu'il y a moins d'adéquation avec l'originalité de l'écriture. Par exemple, Jean-Claude a apporté pendant le temps de répétition du Don Juan, dont nous parlions tout à l'heure, en fait, puisque c'est ce que nous faisons en ce moment à l'atelier lyrique, eh bien, il avait apporté le fac-similé du manuscrit. Vous savez, celui qui est à la Bibliothèque nationale maintenant, mais qui était à un moment celui qui a été laissé par Pauline Viardot à l'État français. Eh bien, quand on le lit, on voit avec la facilité, l'immédiateté de l'écriture et de ce qu'on entend, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de rature, quoi. Il n'y a des ratures qu'à des endroits où il n'a pas envie de l'écrire, comme par exemple le final, hein, qu'on a coupé dans cette version. Mais surtout, ce qui précède, il y a presque pas de rature, quoi. C'est-à-dire que c'est de sa main, c'est écrit à l'encre. Vous voyez le papier, alors, on a dit, il y a plusieurs papiers, bon, peu importe, je vais en parler en détail de ça, mais le manuscrit est hallucinant d'écriture. On voit ça sort directement de sa tête sur le papier. Il a écrit assez rapidement, visiblement. Je sais pas, certains parlent d'un mois, quoi, ou, je sais plus, 27 jours, 17, même, je sais plus. Enfin, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de rature. Et la propreté de l'écriture, le texte, est-ce qu'il y a eu des brouillons? Peut-être. Mais non, puisque a priori, il y a des endroits qui sont rayés. Mais quoi, c'est deux mesures, toutes les 10 pages. C'est incroyable. C'est incroyable de penser que c'est sorti directement comme ça de son esprit. Dans le programme, justement, il y a Jean-Claude Maguire parle des origines du mythe. Il en parle avec beaucoup d'intelligence et de brio, c'est vrai, le mythe n'est pas venu comme ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est né d'un théâtre de foire, le personnage d'un coup a été pris dans quelque chose qui a été joué traditionnellement, hein, un théâtre oral dans lequel Tissot et Molinard a fait ça dans sa cuisine, puis Molière, ainsi de suite, jusqu'à arriver à lui. Ça arrive à lui, donc, c'est une matière qui est intérieure à sa réflexion, et ça sort avec... son génie, c'est-à-dire donc il se positionne à telle période de l'histoire de la musique avec son langage à lui et tout vient comme si c'était un vecteur, c'est comme si c'était un concentré d'un point précis à une période où tout serait passé. Je sais pas si je parle de Mozart, c'est ma façon de le voir en tout cas.
Quelque chose de naturel en fait.
Oui, c'est un concentré de quelqu'un qui a été plus qu'une éponge, quoi, qui a été une éponge créatrice qui a tellement absorbé qu'à un moment donné, ben, il a pu qu'à presser pour que tout lui sorte de l'esprit avec une facilité déconcertante.
Et d'ailleurs, l'ouverture a été composée la veille de la première, donc en une nuit.
Oui, il y a une anecdote assez drôle sur cette ouverture, c'est qu'à une époque, on l'a joué, on a fait des coupures et tout, c'est dans Juan, on n'a pas arrêté de le jouer en fait. Et à l'école normale, à l'époque où était détenu le manuscrit Viardot, on a entendu un homme hurler dans l'escalier « Eindoué !» Ça a réveillé toute la maison. Et puis c'était Toscanini qui était venu lire l'ouverture. Et en ouvrant, voir le manuscrit. Et en ouvrant la première page, il avait compris que ça se dirigeait à deux. En tout cas, les premiers accords. C'est rigolo.
Justement, comment vous abordez maintenant ce rôle de Don Giovanni que vous avez créé il y a 10 ans? Avec Jean-Claude Maguire.
Ben, je le fais avec 10 années plus, donc peut-être avec moins de souplesse physique, peut-être, hein, parce que quand même ça bouge beaucoup, mais je le fais avec plus de poids. Je fais plus de poids parce que j'ai vécu 10 ans de plus, et que donc vocalement j'ai changé et puis humainement j'ai changé aussi. Donc je vois pas du tout les rapports de la même manière. J'aperçois tout ce que ça a de plus profond, de plus abyssal dans la réflexion du metteur en scène, dans le rapport à la mort par exemple. C'est pas tellement le rapport aux femmes qui est intéressant dans cette version, c'est le rapport à la drogue, en fait, tout ce qui fait que vous mettez en situation difficile de façon à vivre plus et plus vite, et puis le besoin de liberté. De ne rien accepter qui puisse être à l'encontre de son désir réel et profond. Quelque part, ça parle d'essence. Et Don Juan, c'est un personnage qui veut toujours aller à l'essence et qui ne veut pas se laisser prendre par une réflexion qui ne lui est pas personnelle, qui serait celle de quelqu'un d'autre qui lui dit « Non, il faut le voir comme ça, vert, c'est pas vert comme tu le penses, vert, c'est tel qu'il le voit lui. » Et on aime ou on n'aime pas, peu importe, en tout cas il est intègre vis-à-vis de sa vision des choses. Alors évidemment elle fait fi de toutes les convenances, de toute la moralité, de tout ce qu'on voudra, quoi. Mais c'est un homme à la recherche d'un absolu qui est d'une connaissance qui ne lui appartient pas, à savoir qu'est-ce qu'il y a après.
Vous vous sentez plus vrai maintenant dans ce rôle?
Plus vrai, non. Non, je pense que j'étais vrai il y a 10 ans aussi. Disons, j'étais vrai avec 10 ans de moins. J'ai ma vérité d'aujourd'hui. Mais je fais la même mise en scène, donc a priori je propose la même image, la même réflexion sur le personnage. C'est qui est la vision de Pierre Constant et Jean-Claude Magloire. Mais je fais un personnage peut-être plus proche de l'essence, c'est-à-dire avec moins de scories dans le geste, dans la pensée, dans le chant. C'est-à-dire avec plus économique, disons. Peut-être parce que je me ménage plus de façon à aller avec moins de difficultés à travers des pages assez difficiles, vis-à-vis des tempi qu'on prend, dans, par exemple, certains airs que j'ai chantés qui sont très rapides, ou des situations qui me mettent en danger de colonne d'air, de respiration, de ceci comme ça, qui sont des choses techniques que moi je dois gérer. Mais en fait, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que je deviens plus centré sur ce que je dois exprimer par essence. Et je trouve que c'est un travail auquel je m'attache en ce moment et que je conseille un peu à tout le monde, en tout cas à tout chanteur, à savoir qu'est-ce que je dois dire au moment même où je m'exprime, qu'est-ce qui est important qui doit passer. Parce qu'on peut te faire passer 50 choses, or, dans la salle, on a le temps que pour une. Les gens qui vous regardent, si vous lui dites 3 choses à la fois, c'est peut-être complémentaire, mais il n'en comprendra qu'une. Donc autant essayer de faire passer une correctement, vous voyez.
Quand je parlais de vérité, c'était d'ailleurs de vérité par rapport au personnage. C'est-à-dire que je pensais que vous étiez plus proche d'une vérité de Don Giovanni maintenant qu'il y a 10 ans. C'est comme ça qu'on le voit sur scène, en tout cas.
Ben ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire, puisque vous étiez dans la salle. Ben, écoutez, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Mais globalement, si vous voulez, c'est la vérité de cette production, parce que Don Juan, c'est un, comme tout personnage mythique, on peut le tirer dans tous les sens, on peut le faire sien dans toutes les dimensions. Donc, et tout est juste. Tout est bon à partir du moment où on y croit et on ne va pas en l'encontre de l'œuvre. Mais si vous, comme je vous dis tout à l'heure, cette œuvre est tellement riche qu'on peut la tirer un peu dans tous les sens. J'ai vu Don Juan, j'en ai fait. Qui n'allait pas dans cet axe-là, qui était plus dans la séduction, par exemple, qui était plus dans l'acte vocal, dans le baroque. Alors que là, je suis plus dans le romantisme, vous voyez, dans cette œuvre-là. D'ailleurs, ça se passe plus tard, en 1830, tout comme ça. Alors que très souvent, je l'ai fait en 1600, à l'époque de Molière ou d'avant. Donc, pas du tout le même costume. Et puis, une prolifération d'éléments de décor. Quand je suis en train de festoyer à une table, si vous voulez, il y a le plat, l'entrée, le dessert et même l'addition, vous voyez. Alors que dans cette production, j'ai vraiment qu'un poulet au bout d'une broche, quoi. C'est tout, que j'embroche et que je déchire. Bon, voilà, quoi.
Ça change, justement, l'interprétation, ce que vous avez autour de vous.
Oui, ça change beaucoup parce que là, on est plus souvent au sol qu'on est debout. Vous voyez, quand on enlève les accessoires, progressivement, on se rapproche de la terre. Quand on rajoute de l'accessoire, on se redresse. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est trop d'informations visuelles qui fait qu'au bout d'un moment, on ne va pas à l'essence. Et dans l'autre cas, on va tellement à l'essence qu'on se rapproche du sol. Alors, on se rapproche du sol, c'est bien, parce que quelque part, on se rapproche de l'œuvre. Mais la terre devient tellement présente qu'on finit par ramper, quoi.
Donc, c'est plus difficile.
Oui, c'est vous qui allez juger si vous venez voir l'œuvre.
Vieni alla finestra, oh mio tesoro, e vieni ancora.
Qu'est-ce que vous diriez à un jeune chanteur qui veut aborder une carrière lyrique?
Ben, je lui dirais pas avoir peur, d'abord. Pas avoir peur de se mettre en danger, d'affronter ses incompétences, parce qu'on s'en invente même, tellement on pense qu'on n'est pas à la hauteur, vous voyez. Donc vraiment d'aller avec toute la joie de découvrir quelque chose, et puis surtout de faire partager ce qu'on a dans le ventre, quoi, sans vouloir toujours tout maîtriser, quoi. Il y a des choses que vous pensez que vous n'êtes pas apte à faire, et puis en fait vous le faites malgré vous, quoi. Donc cultiver un feu sacré, que je trouve qui est essentiel dans ce métier, à savoir être toujours émerveillé de ce que vos collègues sont capables de faire, de ce que vous êtes vous-même capable de faire, et puis de ce que l'œuvre a à vous proposer. Et ce pouvoir d'émerveillement, il vient le matin au réveil, et normalement, il devrait pas vous quitter de la journée. Il devrait c'est un tic-tac intérieur qui vous dit que la vie est courte et que les choses que vous avez exprimées, si vous le faites pas aujourd'hui, c'est trop tard, quoi. Alors, je pars dans l'absolu, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, je vous le lève le matin et puis je vais me laver comme tout le monde et ça prend 3 heures. Bon, voilà, quoi. Je vais faire la bouffe et puis tout est brûlé, bon, comme tout le monde. Mais ne pas avoir peur, ça me paraît être une ligne de conduite dans la mesure où elle vous oblige à vous bonifier. Sinon, si ça vous paralyse et puis vous ne faites rien, si vous avez le trac, ben, vous ne ferez jamais rien. Si vous avez peur d'une situation dans laquelle vous pensez que vous ne serez pas apte, ben, la situation vous apprend déjà quelque chose. Donc autant la faire, autant plonger. Et ensuite, être curieux, quoi. Très à l'écoute de tout ce qu'on a à vous proposer, de tout ce que vous pouvez glaner à gauche et à droite, qui de toute façon bonifie votre champ. Et puis, un autre conseil, c'est de s'aimer, quoi. De s'aimer, c'est-à-dire que il faut être respectueux de soi-même, quoi. Il ne faut pas se faire mal parce que la vie vous malmène. Vous voyez ? Comme tout le monde, c'est pas facile. Il y a un jour où c'est pas facile. Ben, il faut s'aimer quand même. Il faut savoir que ce qui est important, c'est soi, quoi. C'est pas ce que les autres pensent de vous. Donc apprendre à vous connaître et puis continuer à faire des efforts, quoi, vis-à-vis de ce que vous avez à offrir aux autres, à savoir on vit sur la séduction un peu dans le chant, vous savez, il faut plaire un public tous les soirs, hein. On est remis en question, on est jugé, quoi. Eh bien, il faut pas lâcher prise, hein. Faut pas croire que parce qu'on a une jolie voix on peut être moche, mal lavé et emmerder tout le monde. Non, il faut faire un effort, il faut être gentil, faut mettre les autres en valeur et pas penser qu'à soi, faut pas être égoïste, quoi. Et tout ce qui va dans le sens de faire le bien, ça va, quoi. Parce que c'est pas facile, quoi. C'est un métier qui a ses difficultés, hein. Je veux dire, c'est pas facile d'être seul. Vous rentrez chez vous, quand c'est fini, les gens applaudissent, d'accord. Vous en parliez tout à l'heure. Mais après, qu'est-ce qu'il y a après? Après, vous rentrez, puis vous êtes dans une chambre d'hôtel, quoi. Donc, il faut pas avoir peur d'être seul. Il faut travailler sur soi tout en restant distant de soi. Parce que sinon, on devient un monstre d'égoïsme, quoi. Et ça a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, on passe sa vie à se regarder dans la glace. Donc, en même temps, être très perméable, très accessible, et en même temps, être très protégé, puisqu'il faut se protéger, et très analyse et en commande des choses. Donc, c'est pas facile d'être à la fois naturel, généreux, et puis sur ses gardes. Pas facile. Ben, c'est ça le travail du chanteur. quelque part. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas avoir peur d'abord, et puis effectivement d'être généreux.
Et l'angoisse, ça se gère comment ?
Ben, comme tout le monde. L'angoisse, ça se gère en pensant à autre chose, en cultivant, en ne se disant pas que c'est la fin de votre vie parce que vous avez raté un aigu, ou, n'est-ce pas, hein ? Il faut vous dire qu'il y a d'autres choses intéressantes dans la vie. Je ne sais pas, moi, il y a plein de musées à voir, il y a plein d'œuvres à découvrir, il y a plein de gens à rencontrer. C'est pas mal déjà, ça prend une vie. Hein.
C'est dire que la vie est belle.
Ah, oui.
Nicolas Rivinck, merci.
Merci.
Thank you.